Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir. Alors, je suis très content de vous retrouver avec Jean Gracier pour cette nouvelle session 2017-2018. Et je voulais faire aussi une petite annonce par rapport à un animateur qui était connu sur Radio Ici Maintenant, du nom de Jean-Claude Carton, qui avait créé sa web TV Les Étoiles du Cœur. Aujourd'hui, il aurait fêté son anniversaire. Je rappelle qu'il est décédé il y a quelques années. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil par rapport à lui pour dire que Jean-Claude, on pense toujours à toi et merci pour toute l'aide que tu m'as apportée pour la création de cette web radio. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Je suis là, je t'entends,
voilà.
Cédric.
Voilà, bonsoir Jean.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, donc comment expliquer ? Tu m'avais dit que un petit peu hors antenne que tu avais préparé des petits sujets pour commencer l'émission.
Oui. Oui.
Donc bah, si tu veux, on peut commencer déjà par le petit texte, le petit conte justement pour entrer.
D'accord Cédric, voilà, donc j'avais préparé, c'est vrai que c'est un petit conte que Maria Elisa raconte et qu'elle a raconté toute dernièrement dans la newsletter que nous avons envoyée il y a quelques jours.
D'accord.
Et que j'ai intitulé « L'enfer et le paradis ». Et alors c'est l'histoire d'une grand-mère et son petit-fils, hein. Et alors le petit-fils, un jour, qui s'appelle Nico, se promenait avec sa grand-mère, et il lui dit « Dis-moi, Nanou, toi qui sais tant de choses, explique-moi à quoi ressemble l'enfer et à quoi ressemble le paradis. J'en ai entendu parler l'autre jour par des copains, et je n'arrive pas à imaginer comment ces deux endroits peuvent être. » Alors la grand-mère réfléchit un petit peu et finit par lui répondre « Mon grand, comme je te l'ai dit d'autres fois, rien ne vaut sa propre expérience pour bien comprendre les choses. Alors bien, nous allons faire un petit voyage. » Alors, la maison interdimensionnelle était juste à côté et elle avait lu dans le journal que depuis peu, il y avait un ascenseur qui pouvait nous déplacer dans différentes lignes du temps. Ils prirent l'ascenseur et pendant qu'ils montaient, la grand-mère lui dit « Alors, nous allons commencer par visiter une ligne temporelle où tu pourras voir à quoi ressemble l'enfer de tes propres yeux. » Alors, en ouvrant la porte, ils découvrirent une immense salle avec une grande table au milieu, et autour de cette table, des hommes et des femmes qui étaient là pour manger. Alors, ils étaient nombreux, mais personne ne parlait. Et ils semblaient tous bien tristes, et certains étaient même énervés. C'était bizarre car ils avaient tous une longue cuillère en bois attachée au poignet. Et au milieu de la table, une grande marmite où, embaumait toute la pièce de son arôme délicieux, au point que Nico et Nanou commençaient déjà à saliver. Alors, en s'approchant, ils comprirent l'énorme détresse des gens qui étaient là assis autour de la table. Avec sa longue cuillère, chacun arrivait à atteindre la marmite qui se trouvait au milieu de la table. Mais comme le manche de la cuillère était trop long, ils n'arrivaient pas à porter à la bouche le contenu et tout tombait sur la table ou à côté. Nanou laissa contempler le triste spectacle à Nico durant un petit moment, puis le prit par la main et lui dit « Ben, viens maintenant. Nous allons voir à quoi ressemble le paradis. » Alors, ils prirent l'ascenseur à nouveau pour aller visiter une autre ligne du temps. Alors, la porte s'ouvre, et là, ils pouvaient ressentir une autre ambiance. On entendait des voix, des rires et même des chants. Et il y avait là, pourtant, la même salle, avec la même table et la même marmite au milieu, embaumant la même odeur que l'autre pièce. Autant d'hommes et de femmes assis autour de la table et chacun avec une longue cuillère attachée au poignet. Mais quelle était alors la différence ? Eh bien, chacun remplissait sa cuillère et il la donnait à son voisin d'en face. Cela se faisait en toute simplicité et dans la joie de partager. Nanou laissa son petit-fils observer la scène pour qu'il puisse comprendre, puis lui dit « Tu as faim, mon grand, viens, nous allons manger un peu. » Alors voilà cette histoire, l'enfer et le paradis. C'est simple. N'est-ce pas, Cédric ?
Oui, d'ailleurs, ça me dit quelque
qu'est-ce
chose.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Ben, c'est que l'enfer, c'est l'ego, alors que le paradis, c'est le partage, c'est l'amour, c'est le don de soi vers l'autre. Et c'est ça le paradis. Eh bien, c'est ce que nous vivons sur Terre. Nous vivons l'enfer et le paradis quand on vit soit d'une manière, soit d'une autre. On vit l'enfer ou on vit le paradis. Ça, c'est une belle leçon, je crois, dont chacun pourrait tirer profit parce qu'on est toujours un peu dans l'enfer et quelquefois, je l'espère, un peu plus souvent dans le paradis. Tu vois ?
Oui.
Voilà.
Wow. Effectivement, ce conte, je me demande si c'est pas un conte d'origine africaine parce que ça me dit quelque chose. Déjà, il y avait une vidéo qui tournait, donc c'était une animation hein, qui montrait justement la même scène avec des gens avec cette cuillère-là, avec l'armée d'Amérique qui était au milieu et autour il y avait un puits infranchissable et les gens en fait ils rageaient parce qu'ils ne pouvaient pas manger et tout. Oui. Et il y en a un qui a pris l'initiative de faire ça, de le donner à quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, ils se sont partagés comme ça, et hop, chacun a mangé. Donc du coup, en plus, c'est que cette animation, au début, elle était toute grise. Et dès lors où il y a eu ça, hop, c'est devenu en couleur, en fait.
Oui, donc, bien sûr, mais c'est un conte qui est, qui est assez connu. En fait,
oui,
en fait.
C'est ça.
Bien sûr. Moi, j'aime bien l'arranger de façon à ce qu'on voit bien ce qu'on peut, on peut se comprendre, on peut se trouver dans cette situation, soit dans l'enfer, soit dans le paradis, c'est quand on est trop dans l'ego. Trop dans l'ego, eh bien, on va vers la souffrance. Hein. Alors que quand on est dans le partage, dans l'amour, la joie, la paix, eh bien, c'est le paradis. Donc le paradis et l'enfer n'existent pas ailleurs que sur Terre, ils existent tous les jours là où nous sommes, là où nous vivons.
Oui, et comment dire, parce que c'est vrai que ça fait partie de la dualité, mais cette dualité-là, c'est nous en fait qui la choisissons par rapport à notre libre arbitre, pardon.
Ah ben, c'est notre libre arbitre, mais c'est notre niveau de conscience qui nous fait aller vers le paradis hein, aussi. Voilà, parce qu'en fait, c'est notre état naturel de partager. C'est notre état naturel. Quand l'ego est effacé, quand on a lâché complètement son ego, eh bien, on vit dans le paradis. Parce que naturellement, on est dans le partage et naturellement, on va vers l'autre.
Hein oui.
Voilà, c'est ça, c'est la leçon que je tire de ce conte, quoi. Mais qui est très beau, qu'on devrait enseigner, qu'on devrait raconter un peu plus souvent, tu vois.
Oui, qui devrait être enseigné, par exemple, à l'école, déjà aux
enfants. Bien sûr, le don de soi eh bien, nous amène de la joie. Et donc, voilà, hein. Et bien sûr que quand on est renfermé sur soi et quand on est dans nos peurs, parce que c'est l'ego qui nous maintient dans la peur pour garder son pouvoir sur nous, et à ce moment-là, ben on est dans la souffrance, et c'est l'enfer, bien sûr.
Oui.
Simple. En fait, la vie, c'est ça, et la spiritualité, ça se résume à ça aussi. C'est lâcher son ego pour aller vers la paix, la joie, et vers le contact avec sa divinité. En fait, c'est ça, la spiritualité peut se résumer en quelques mots, c'est juste ça. C'est la connexion avec sa divinité, la divinité que nous avons à l'intérieur, qui n'est pas quelque part ailleurs qu'à l'intérieur de soi. Voilà, tout simplement.
Oui, c'est vrai que de toute façon, on l'entend souvent par différents auteurs ou même conférenciers, qu'on n'est pas ce corps. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la différence entre l'état du corps physique et l'état du corps mental ou de l'âme. Il y a des gens, ils ont du mal en fait à séparer les choses. Alors, c'est pas aller dans la séparation, parce qu'il y en a qui disent même la séparation. C'est juste comprendre que le corps physique, c'est le corps physique, mais il y a quelque chose d'autre à l'intérieur. Et le mal actuel qui se passe, on va dire, dans le monde, hein, on le voit très bien avec l'actualité. D'ailleurs, on en parlera un petit peu au cours de l'émission. Où les gens sont dans une guerre de l'ego, hein, notamment avec les États-Unis et la Corée du Nord, hein, on le voit clairement.
Ah ben bien sûr, mais les guerres... Tu sais, quand chacun, quand on a un ego trop fort, eh bien on est toujours dans le combat, hein, dans la lutte, dans la bagarre. Et c'est pourquoi les guerres existent, parce que la guerre commence avec soi, hein, la paix commence avec soi, comme la guerre commence avec soi.
Oui.
Donc, ce qu'il faudrait apprendre, c'est justement de développer la paix en soi pour que les guerres disparaissent. Hein.
Oui.
Alors, bien sûr, ce que tu disais, c'est ce que je répète très très souvent. Nous ne sommes pas notre corps. Bon, c'est vrai. C'est vrai que c'est facile à dire. À vivre, c'est autre chose. Moi, j'ai eu cette chance de vivre une sortie du corps, une NDE, comme on appelle, et j'ai vu mon corps. Et ça a été la grande surprise de ma vie, et ça a été un choc dans ma vie, parce que ma vie a changé à partir de là. Quand j'ai vu ce corps inerte qu'on essayait, dans une panique indescriptible, de réanimer, j'ai compris que j'étais pas ce corps. Et ça a été pour moi une révélation absolument inouïe, quoi, énorme.
Oui.
Et j'ai compris que j'étais pas ce corps. Et quand je me voyais, j'ai dit, alors je suis qui? J'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à réaliser. Et donc, j'arrivais pas à mettre un mot sur qui j'étais, mais en tous les cas, je savais que j'étais pas mon corps. Après, c'est venu après, ce travail que j'ai fait pendant des années, mais j'ai bien vu que j'étais pas mon corps. Alors, une chose que j'ai retenue aussi, tiens, j'en profite, c'est que quand les médecins, il y avait plusieurs médecins, des infirmières, c'était la panique à bord, donc ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire pour réanimer ce corps, et puis en apparence, je souligne en apparence, quand j'ai réintégré mon corps, le corps a retrouvé vie. Et donc les médecins, eh bien, se sont félicités en disant « nous avons bien travaillé, nous avons réanimé ce corps ». En réalité, ce n'est pas exact, parce que qui a décidé de faire vivre ce corps? C'est l'âme que je suis. Parce que j'avais, en fait, ce n'était même pas mon âme, l'âme que je suis. Ce n'est pas tout à fait exact, parce que moi, je ne voulais plus revenir dans ce corps, mais on m'y a poussé. On m'y a forcé, on m'y a dit non, 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 il faut revenir dans ce corps, tu n'as pas terminé ton trajet. Et donc la décision a été prise de réintégrer ce corps et de lui redonner vie. Donc les médecins ont travaillé, mais ça c'est le monde des apparences,
oui,
que nous voyons avec nos yeux.
Les illusions.
C'est le monde de l'illusion dans lequel nous sommes continuellement, quotidiennement en contact. Mais la réalité, elle ne se voit pas avec nos yeux. Mais la réalité, dans mon cas, c'est pas les médecins, ce ne sont pas les médecins qui ont... Ils ont fait leur boulot, ils ont fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'il y avait quelque chose, peut-être que l'âme du médecin et mon âme se sont dit des choses, je ne sais pas, tu vois. Mais en fait, la décision a été prise ailleurs. Et c'est pour ça que les maladies, les gens qui décèdent, c'est jamais la faute de quelqu'un à l'extérieur. C'est toujours l'âme qui a décidé de s'en aller. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Voilà, oui, pour cette parenthèse, mais tu m'as un peu tendu la perche, j'aime bien,
oui,
en parler, parce que c'est important.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que ce genre de témoignage-là, on l'entend par rapport à d'autres personnes qui ont vécu de CNDE, le côté d'être forcé de revenir dans leur corps.
Oui,
je me rappelle, oui, témoignage d'une mère de famille, hein, de 2 enfants, je crois, ou 3, je sais plus. Mmh. Et elle était donc de l'autre côté, elle avait traversé ce fameux tunnel, et elle voulait plus revenir, mais on lui avait dit, si, tu dois revenir. Il lui avait montré les enfants et tout, ils ont besoin de toi et tout, mais elle disait, mais non, c'est pas moi, ça. C'est... Et ils l'ont quand même contraint à retourner, parce que bon, ils ont quand même réussi à montrer, mais bon, voilà, comme elle a dit, je suis revenu, mais je ne voulais pas revenir. Elle a dit... C'est pas qu'elle a dit je n'aime pas mes enfants, mais elle a dit c'est que l'amour qu'on vit de ce côté-là n'existe pas sur Terre. Et elle a dit comment elle avait expliqué ça? Elle a dit j'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer, parce qu'elle a dit les mots humains sont totalement incapables de décrire,
ben oui,
cet amour-là. Mais par contre, quand on entend cette personne parler, on ressent. Et je me souviens que c'était lors d'une petite réunion que j'avais participé comme ça. C'était, je ne sais plus le site, ah, si, c'était OVS. Et il y avait une personne qui avait vécu une NDE. Et donc, dedans, il y avait des gens qui venaient pour écouter. Et une personne qui était totalement hermétique à ça. Et il a écouté cette personne-là, et il a dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il m'a dit, j'ai ressenti quelque chose et tout. Et il a dit, maintenant, je commence à douter, à remettre en question mes certitudes que je pensais avoir. Donc, comme quoi, le poids des mots, le pouvoir du verbe, je cherchais, a vraiment une force que même les personnes les plus hermétiques possibles ne restent pas insensibles.
Ah, mais c'est sûr, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce genre d'expérience, bon, je pourrais en dire plus sur l'expérience que j'ai vécue et tout ce que les ressentis que j'ai eus, mais il me manque le vocabulaire, parce qu'on n'a pas le vocabulaire adapté à
C'est ça.
à ce qu'on voit, à ce qu'on vit là, à ce moment-là.
C'est ça.
Parce qu'on n'est pas dans le même monde, c'est tout à fait différent, quoi. C'est tout à fait. Ouais, c'est difficile à expliquer à chaque fois que j'en parle. C'est vrai que ça me fait. J'y reviens souvent, souvent. J'ai l'impression d'y être toujours, tu vois. C'est pour ça que j'ai un peu plus de facilité à me connecter à mon âme, à lui parler, parce que je sais qu'elle est là, donc c'est pour moi c'est une telle certitude que tu vois, j'ai plus d'efforts à faire, j'ai plus de doutes, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les mots. Et puis alors, il y a une chose, c'est le temps aussi. La notion du temps est complètement différente. Moi, ce que j'ai vécu dans la réalité que nous connaissons, c'était peut-être 2 ou 3 minutes. Alors que moi, ce que j'ai vécu, ça a été très long. Ça, si on pouvait le chiffrer en temps maintenant, ce serait des heures.
Oui.
Et pourtant, voilà, tu vois, le temps n'est pas le même, quoi. Voilà. Par exemple, pour revenir dans mon corps, j'ai mis très, 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 très longtemps. Et je résistais pour ne pas y aller. On devait être plusieurs à me tranquillement, gentiment, en me poussant, tu vois, voilà, ça s'est passé. Ça, j'ai eu l'impression que ça a duré très, très longtemps. En réalité, mon cœur s'est arrêté pendant 2 ou 3 minutes, hein, peut-être 4, et encore, mettons. Hein.
Oui.
Donc voilà, ce sont des choses voilà, qu'on a du mal à expliquer parce qu'on n'a pas le vocabulaire adapté. Hein, parce que voilà, le vocabulaire que nous avons, c'est celui qui est à la disposition de notre ego. Et comme il est très, très limité, ben, le vocabulaire aussi. Voilà.
Et oui, ça, comment dire, lui, il est vraiment fixé que sur le matériel, sur la 3D, mais après, tout ce qui va au-delà...
ben oui, mais bon, il est très utile aussi.
Oui, hein, aussi.
Pas, il est très utile. Il y a une petite chose que... Oh, écoute, je ne sais pas que je passe d'un sujet à l'autre. Ouais. Alors, il y a une chose quand même que je voudrais préciser, parce que sinon, je vais oublier.
Oui.
Marie-Lisa, c'était le conte que j'ai lu tout à l'heure, enfin que j'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui l'a écrit, qui l'a réécrit et mis dans le newsletter. Et dans sa newsletter, elle parle d'un site nouveau qu'elle a fait. Donc j'en parle, j'ouvre une petite parenthèse.
Pas de souci.
Ça s'appelle Elie Pono. EliePono.com.
Oui.
Elie-Pono.com. Je ne sais pas si tu es allé dans ce site. Elle a beaucoup travaillé. Moi, je le trouve très joli. Et beaucoup, beaucoup de retours. Nous avons eu beaucoup de retours. Les gens l'aiment beaucoup. Voilà. Donc, c'est dans ce site, si tu veux parler de l'EFT ou au Ponopono, tu peux envoyer les gens sur ce site EliePono.com.
D'accord, ok.
Ouais. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire à propos de la spiritualité. Il y a une phrase que j'aime bien dire, la spiritualité, c'est comme la musique. En fait, regarde, pour être un bon musicien, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord apprendre la musique, hein, logiquement. Il y a des musiciens qui n'apprennent pas la musique, mais enfin, c'est l'exception. Donc, il faut apprendre la musique. Il faut donc beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup apprendre. Puis ensuite, il faut apprendre un instrument.
Oui.
C'est pareil, il faut travailler, faire ses gammes, et puis il arrive un moment où on sait se servir de l'instrument. Mais tout ça ne fait pas un musicien encore. Pour être un bon musicien, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquer. Hein. Moi, j'ai été musicien dans une partie de ma vie et je côtoyais des professionnels et qui jouaient 6 heures par jour. Hein.
Mais oui.
Moi, j'avais pas trop le temps. Je faisais, pour moi, c'était 3 fois 3 heures par semaine, ce qui me semblait déjà beaucoup. Et c'est vrai que j'ai progressé, mais pas autant que les autres. Enfin voilà, c'est une question de pratique, si on veut vraiment progresser. Mais pour la spiritualité, c'est pareil. Beaucoup croient encore qu'il suffit de savoir. Beaucoup croient qu'il suffit de participer à beaucoup de séminaires, de développement personnel, passer des jours et des jours dans des endroits à faire des méditations. Tout ça, c'est très très bien, hein, bien sûr. Tout est très bien. Mais ça ne suffit pas pour se dire je suis illuminé, pour se dire je suis quelqu'un qui a fait une grande avancée dans la spiritualité. Parce qu'en fait, la spiritualité, c'est comme la musique, il faut pratiquer.
Voilà. Oui.
Il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas d'avoir appris et de savoir. La spiritualité, c'est pas un savoir, c'est une pratique quotidienne. Voilà. Et ça, c'est important de le dire aussi. Donc j'aime bien faire ce parallèle avec la musique, parce qu'en fait, tout le monde sait bien que pour être un musicien, ben, il faut travailler. Ça, oui. Et ben, la spiritualité, c'est pareil, il faut pratiquer. Le mot travail, ce n'est pas le mieux adapté, mais il faut pratiquer. Voilà. Donc, pour pratiquer, ben c'est quoi pratiquer? C'est être dans le lâcher-prise, lâcher l'ego. Et c'est ça la spiritualité. Il faut arriver à se réveiller de l'illusion dans laquelle nous enferme l'ego. Et le meilleur outil pour pratiquer, et se réveiller de cette illusion, c'est le pardon. On revient toujours au pardon.
Oui.
Voilà. Donc, personne ne fera le travail pour vous, ceux qui veulent se lancer dans la spiritualité. En fait, c'est une pratique quotidienne, le pardon. Voilà, c'est une pratique quotidienne du matin au soir. Et voilà, pour moi, c'est ça. Le chemin qui mène à une vraie spiritualité, c'est-à-dire à un contact de plus en plus proche avec sa divinité. Voilà.
Oui.
Ce que vous voulez dire.
Alors, oui, ça, je le confirme tout à fait. Hein. Le vivant un peu tous les jours, c'est vrai que, bon, même si tous les jours, c'est difficile de faire ça 24 heures sur 24, parce qu'avec la vie que nous avons, ça ne nous permet pas, mais le fait de faire tous les jours une pratique, c'est vrai que ça nous permet d'évoluer, d'apprendre et de, comment dire, de grandir. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, ça me fait penser, pour ceux qui veulent découvrir ce côté de la pratique, de la spiritualité, il y a un très bon film qui, moi, d'ailleurs, a été une révélation, c'est Le Guerrier Pacifique, et d'ailleurs, dont le livre aussi, de Dan Millman.
Exactement.
Honnêtement, c'est vraiment les deux choses que je conseille déjà pour entrer en matière. Parce que bon, je sais qu'il y en a, lire des livres, c'est un peu dur, bon, ok, mais moi j'avoue que des fois me plonger dans un livre, c'est un peu complexe, mais bon, j'y arrive quand même. Mais le film, il est quand même plutôt bien fait, il est quand même assez bien résumé. Moi, je le conseille quand même plutôt en VOST, parce que la version française elle a été plutôt mal traduite, et honnêtement, les scènes les plus rebondissantes, les plus fortes, avec le langage français, elles sont cassées. Donc je conseille vraiment plus de découvrir la version sous-titrée en VO. Voilà, un petit peu ce que je pouvais dire.
Oui, je ne pourrais pas te dire, mais c'est vrai que moi j'ai lu le livre, et j'ai vu le film deux ou trois fois d'ailleurs. C'est vrai que je m'en lasserai pas. Mais d'avoir vu le livre, c'est vrai que c'est toujours plus profond un livre.
C'est vrai.
Bon. Oui. Mais ouais, cette histoire magnifique. Ouais. Et c'est là où on voit comment vivre l'instant présent, c'est une puissance fabuleuse.
Ouais, ça c'est clair. Et d'ailleurs, je me souviens, parce que là c'est une petite anecdote, d'une personne qui voulait justement rentrer dans ce côté de la spiritualité, mais elle ne savait pas comment. Alors au début, elle avait commencé avec écartolé. À un moment, elle a dit j'ai arrêté. J'ai même balancé le livre, parce qu'elle a dit j'y comprends rien du tout à ce qu'il dit. À un moment, j'ai fait non, là vous commencez un peu trop fort, c'est pas du tout le bon truc. Je lui ai conseillé le livre du Guerrier Pacifique. Je dis, vous le trouvez en livre de poche à 5 euros. J'ai eu, 3-4 jours après, un SMS. Elle m'a dit, le livre, en 2 jours, je l'ai lu. Elle m'a dit, j'ai pas décroché, quoi. Elle a dit, il est vraiment super. Elle a dit, ça m'a complètement changé la façon de voir. Enfin, voilà, c'est vrai que dedans, il y a une énergie qui... On peut pas l'expliquer, quoi.
Oui, bien sûr. C'est arriver à un état... J'en parle souvent. C'est arriver à un état... Par exemple, le docteur Len, tu sais, le docteur Len qui a fait connaître Ho'oponopono, il parle de l'état vide, l'état zéro. Il emploie ces deux expressions, l'état vide ou l'état zéro. C'est un état où le mental est absent complètement.
Hein. Oui.
Et dans cet état-là, boum, tout est possible, quoi. Hein. Et là, on est dans l'instant présent, et là, tout est possible, quoi. Et c'est ce que ce film raconte un peu, en quelque sorte.
Mmh. Oui. Oui.
Et bien sûr, voilà. C'est, comment arriver à cet état-là? Ben, c'est par la pratique. Alors, tu disais tout à l'heure que la vie de tous les jours ne nous permet pas de pratiquer. Tu sais, en fait, on peut avoir une vie active, professionnelle, dans n'importe quel domaine, et en même temps pratiquer le pardon et pratiquer la spiritualité.
Oui.
Et le faisant, tout sera beaucoup plus facile ensuite. Parce que pratiquer la spiritualité, ce n'est pas une chose, et puis je fais mon travail et c'est autre chose qui ressemble. La spiritualité s'insinue dans tous les domaines de la vie, du matin au soir. En te lavant les dents déjà, mmh. en prenant ta voiture, dans les bouchons, en allant au boulot, en disant bonjour aux gens, déjà tu es dans le pardon. Et d'être dans cet état d'esprit fait que tout sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide.
Fluide, oui.
Tu vois ? Et oui, c'est ça. Alors, ça n'empêche pas de faire son boulot, quel qu'il soit. Hein. Bien sûr que le boulot, c'est le mental qui entre en action, hein, là, bien souvent. Oui. Hein. Mmh. Bon, c'est vrai. Donc, il faut faire le boulot, mais il faut que toujours le pardon soit toujours présent. Le pardon soit toujours là. Hein. Faut jamais qu'il soit absent. On ne peut pas dire je fais mon boulot, j'engueule mes employés, je vais, tu vois. Et puis, quand je vais finir, je vais être dans le pardon. Non, non, non. Non. Là, ça ne peut pas marcher, ça. Tu vois ?
Oui.
C'est d'être toujours dans cet état d'esprit différent, tu vois ? De bonté, de bienveillance, de, tu vois ? Et là, tout marche beaucoup plus facilement. Moi, qui étais chef d'entreprise, j'étais pas trop là-dedans. Tu vois ? C'était, je ne dis pas que c'était difficile. Mais ça l'a été de plus en plus facile à partir du moment où j'ai commencé à pratiquer la spiritualité. Mmh. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Tu vois ?
Oui.
Voilà, donc ça, c'est un autre notre débat, si tu veux. Mais bon, voilà. Mmh. C'est intéressant d'en dire deux mots. Voilà. Oui.
Et bah justement, je vais rebondir sur ça pour le côté du travail et la spiritualité. On va pas parler de certaines choses qui se font actuellement, hein, mais bon, par rapport au travail et à l'ambiance générale, donc pour en parler rapidement de tout ce qu'on peut subir, par exemple le harcèlement moral, des choses comme ça, forcément les gens ils vont dire ouais, mais là je peux pas du tout être dans la spiritualité et d'être dans le pardon avec quelqu'un qui me veut du mal. Alors comment ces personnes qui seraient victimes de ce genre de pratique, comment ils pourraient renverser les choses sans aller dans la colère et forcément avoir des pensées, de dire je vais le tuer, enfin voilà, des choses extrêmes.
Ouais. Et ouais. Donc la réponse n'est pas facile. Alors, pourtant, la réponse devrait être très facile. Parce que moi, je me dis une chose, et toi, l'expérience, puisque je l'expérimente déjà depuis pas mal d'années, c'est que si je suis dans le pardon, si je suis dans cet état de paix en moi, eh bien, je ne vais pas rencontrer de gens qui vont être agressifs. Tu vois ?
Oui.
Si je rencontre quelqu'un qui m'agresse, c'est que l'agressivité est en moi. Alors, c'est pas facile. Les gens il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais d'accord, mais c'est facile à dire, mais ouais, mais moi, dans mon boulot, tatati, tatata, et il y en a un qui aussi, qui va me raconter plein d'histoires.
Oui.
Effectivement. Mais je répète toujours la même chose. Et c'est ça qu'on enseigne. C'est que si j'ai banni en moi toute forme d'agressivité, de méchanceté, de rancœur, de rancune, de colère, etc., ou le mieux que j'ai pu, eh bien je vais rencontrer en face de moi des gens qui sont au même niveau que moi. Mais si je rencontre quelqu'un qui est en train de me violer, c'est que moi j'ai des mémoires très fortes. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que celui qui est en train de me violer, si je suis une femme, je vais l'absoudre pendant qu'il fait son truc. Là, hein ?
Oui.
Mais en fait, c'est ça qui se passe. Tu vois ? L'agressivité amène l'agressivité, la paix amène la paix. Alors bon, c'est très simple de le dire. Et pourtant, des expériences scientifiques ont été menées là-dessus. Et ça prouve tout à fait que quand on est en paix, on amène la paix. Bon, Alors, ceci dit, bon, c'est vrai qu'il se passe des choses, d'accord. Je comprends ce que tu me dis, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas dans un chemin de spiritualité avancée, parce que bon, la vie les a amenés à ce qu'ils sont là maintenant, et c'est parfait, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ils sont victimes de... Alors, le mot victime, moi, tu sais, je l'ai banni parce que pour moi, ça n'existe pas.
Oui, ça fait partie du triangle dramatique.
Et puisqu'on enseigne aux gens qui viennent nous voir qu'ils sont responsables de tout ce qui leur arrive. Tu vois,
oui.
Tu vois, je te dis quelque chose qui va pas t'apporter la réponse tout de suite. Mais je ne peux pas m'empêcher, je ne peux pas faire autrement que de dire ça. Tu vois. Donc c'est ce qu'on enseigne, que tout ce qui nous arrive, voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire aux gens quand même qui... Je comprends ce que tu dis, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben, je ne sais pas, c'est que, voilà, entamer un chemin dans la spiritualité, le pardon, oui, c'est ça qu'il faudrait faire, mais sinon, quand des faits sont accomplis là, devant nous, là, au présent, qu'il se passe des choses difficiles, que des gens souffrent, et quoi faire? Franchement, je n'ai pas la réponse, tu vois?
Ouais.
Franchement, je n'ai pas la réponse, sauf que de dire aux gens... Soit celui dont on a dit qu'il est victime, entre guillemets, ou l'autre est coupable, entre guillemets, si l'occasion m'était donnée, qu'ils viennent nous voir, et au bout d'un moment, peut-être qu'ils comprennent chacun que c'est pas par hasard s'ils se sont trouvés face à face, que un a joué le rôle du coupable, l'autre a joué le rôle de victime, peut-être que dans d'autres vies, ça a été l'inverse.
Oui, on avait parlé dans d'autres.
Et les choses sont faites ainsi, et c'est parfait ainsi. Tu vois, alors bien sûr, les tas de gens vont m'écouter, ils vont dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils racontent, c'est des bêtises, tout ça, c'est fou, quoi. Hein »
Oui.
Et pour, je ne saurais pas dire autre chose, tu vois. Parce que sinon, c'est quoi? Quelqu'un, une femme subit des harcèlements de toutes sortes dans sa boîte, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Eh bien, qu'elle s'en aille. Qu'est-ce qu'elle peut faire, d'autre,
hein? Oui.
Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je préconise jamais de rentrer dans la bagarre. Hein. Ça sert à rien.
Oui, ça fait
la fuite non plus. Mais bien sûr que si tu es avec quelqu'un dont tu n'arrives pas toi à guérir en toi ce qui fait qu'il agit de telle manière et qui fait que ça t'est désagréable, si tu ne peux pas faire autrement, tu peux aussi t'éloigner de cette personne. Hein. Ça, c'est la première chose à faire. Dans un premier temps, on peut s'éloigner de cette personne. De la personne qui est dans une boîte et puis qui subit des harcèlements, qui souffre, qui est malheureuse dans cette boîte, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'elle s'en aille.
Hein, oui.
Sinon, après, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre.
Non, moi, j'ai pas. Enfin, moi, en ayant vécu certaines choses, moi, la seule chose que j'ai faite, c'est de, comment dire, de trouver des moyens pour renverser la donne, pour rééquilibrer les choses. Et puis après, je suis allé voir ailleurs, hein, tout simplement.
Ben oui, et oui, et bien sûr. Ce qu'il faut aussi, c'est. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais toujours dire la même chose. Il y a des exemples de gens qui ont subi des choses très dur. Tiens, je connais une dame très très bien, elle a écrit un très beau livre. Du coup, je ne vais plus me souvenir de son nom. Cette femme, elle a perdu sa fille, qui a été assassinée de façon atroce, et elle a pu pardonner à celui qui a tué sa fille. Elle est allée le voir en prison. Elle a fait un travail de pardon magnifique. Elle n'en veut absolument pas à ce garçon. Elle lui a parlé, tu vois. Voilà, il y a des cas comme ça.
Oui.
Il y en a beaucoup d'exemples de ce type. Hein. Alors, bon, tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là. Je le comprends très bien. C'est magnifique. Hein. Je la connais très très bien. On s'est rencontrés. Cette personne est une femme superbe.
D'accord.
Bon, elle a fait un travail de pardon gigantesque. Bon, elle a été aidée par sa fille qui est venue lui parler.
D'accord. Bon, enfin, moi, ça ne me dit rien, mais si le nom te revient entre-temps...
Oui, je dois l'avoir inscrit. J'ai son bouquin là-bas. C'est drôle que je n'ai pas... Oui, sa fille donc est venue l'aider. Elle est venue, elle s'est manifestée, elle lui a parlé plusieurs fois, et donc grâce à sa fille, elle a pu effectuer ce travail de pardon.
D'accord.
Donc ça, c'est magnifique. Mais bon, c'est un cas. Je sais que tout le monde n'est pas. Elle s'appelle Jeanne Racot.
D'accord, ok, non, je connais pas.
Elle a écrit un très joli bouquin, Jeanne Racot.
D'accord.
Sur cette histoire-là. Voilà.
Donc pour les personnes qui seraient intéressées de lire ce livre.
Oui, ah oui, c'est un livre qui vaut vraiment le coup d'être lu. C'est une grande simplicité. Et puis elle raconte vraiment par où elle est passée, parce qu'au début c'était très difficile, bien sûr. Perdre sa fille, un enfant, dans des conditions comme ça, c'était assez dur. Voilà, elle a effectué un travail de pardon parce qu'elle a compris, en fait, sa fille lui a expliqué, en fait, que l'assassin et l'assassiné avaient comme un contrat. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et quand on n'est pas à ce niveau de compréhension, eh bien, on est dans la souffrance, bien entendu. Et ça, je le comprends bien.
Oui.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Hein. Si ça devait m'arriver dans ma famille, je souffrirais comme n'importe qui.
Oui,
mais peut-être pas très longtemps. Tu vois?
Oui,
peut-être pas très longtemps, parce que souffrir pendant des années, ce n'est pas utile.
Non, non. Et puis, c'est vrai que souvent, longtemps que, comment on dit, c'est ceux qui restent en fait qui souffrent le plus que ceux qui sont partis.
Ah ben, ceux qui sont partis ne souffrent pas.
Voilà.
Si, ils peuvent souffrir. S'ils voient que ceux qui sont restés continuent de souffrir, ça ne les met pas en bonne disposition.
Ouais.
Hein. Ouais. Il vaut mieux, quand on est resté, qu'on voit les gens partir, être heureux de voir que ceux qui sont partis, ben, sont bien maintenant. C'est quand même une meilleure solution. Meilleure solution.
D'accord. Je rappelle pour les personnes qui nous écoutent en direct, vous pouvez poser vos questions sur le site de www.radioterrazen.net en cliquant sur le bouton « Poser une question ». Surtout, n'hésitez pas et Jean se fera un plaisir de répondre à votre question. Donc, pour un peu les sujets d'actualité, hein, j'en ai parlé un petit peu rapidement en début d'émission. Qu'est-ce que tu penses pour toi qu'il serait possible de faire justement pour arrêter ce conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord qui ne fait que augmenter et qui peut déboucher malheureusement sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement face à ça de pouvoir faire descendre la tension?
Ah ben, alors, ce qui se passe dans la politique mondiale, et bon, et surtout sur ce point précis entre les États-Unis et la Corée du Nord, en fait, c'est une espèce de comédie qui se joue là. Je ne crois pas que la bombe nucléaire sera utilisée. Hein, je ne crois pas. C'est pas interdit qu'il y ait la guerre en Corée. C'est pas interdit. Mais je ne crois pas que la bombe nucléaire sera utilisée. Il y a des gens qui veillent là-dessus. Je crois pas qu'on arrive à ce point-là. C'est pas exclu qu'une ville reçoivent une bombe, hein, une bombe nucléaire, c'est pas exclu. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je donne l'impression. C'est pas exclu qu'il y ait quelque chose, mais je ne crois pas qu'il y aura une guerre à échelle mondiale ou dans laquelle on utilise des bombes. Non, je ne crois pas. À peu près certain que non, c'est pas possible.
Moi, je ne pense pas non plus, parce que la Russie déjà tape du poing déjà pour dire qu'il faut trouver une solution diplomatique. Et que cette escale doit s'arrêter, donc sachant quand même que la Russie n'est plus l'ex-URSS, hein, elle est même une superpuissance que même les États-Unis craignent. Donc, je pense pas qu'ils rentreraient dans un conflit dans ça, parce que forcément, ça ne serait pas bénéfique pour eux. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que peut-être pas l'utilisation de ce genre de missiles, mais oui, peut-être effectivement qu'il y aurait quand même des dommages collatéraux, pas très.
Oui, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on ignore. Par exemple, le cyclone qu'il y a eu là, sur les îles Saint-Martin, tout ça, qui s'appelle Irma, l'autre s'appelle Maria, la Guadeloupe. Il y a eu le tsunami au Japon il y a quelques années qui était terrible.
Il y a eu José et Katia aussi, les deux. Hein. Qu'est-ce que sur, sur Saint-Martin, il y a eu Irma, José et Katia.
Oui,
Voilà.
et puis bon, tout ça, à mon avis, ce ne sont pas des choses naturelles qui se sont produites,
Oui.
ce sont des manipulations dont les Américains ont la technologie, ils ont une technologie très très avancée,
Oui, de Tesla.
dont on n'a pas idée, ils sont capables de provoquer des cyclones, ça c'est très facile pour eux, des tremblements de terre par-ci par-là, ou des tsunamis, ou des choses comme ça. Donc ils ont à leur disposition, c'est beaucoup plus important qu'une bombe atomique encore, parce que
Oui.
ça peut détruire tout un pays, donc ils savent le faire. Et je crois que les Russes savent aussi le faire.
Oui.
Donc ils s'intimident comme ça, voilà, ils s'envoient des cyclones, ils s'envoient des menaces, ils s'intimident. Et à la limite, je me demande s'ils ne sont même pas d'accord entre eux. C'est tellement compliqué à échelle mondiale de comprendre ce qui se passe. Mais il y a comme un plan, tu sais.
Oui.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est à comprendre? Voilà, il se passe des choses. C'est vrai qu'il va se passer des choses terribles encore. Hein. Bon, on n'a encore rien vu.
Oui, pour l'instant,
Mais
oui.
bon. Je pense que l'humanité a besoin de ça. À quel monde on aspire? On aspire à un monde un peu du niveau de La Belle Verte, hein,
Oui.
ce fameux film de... Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus son nom.
Je ne sais plus, mais il y a avec Vincent Lindon et oui.
Voilà, La Belle Verte. Ce film magnifique, hein,
Oui.
que tout le monde a aimé,
Oui.
certainement. Moi, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. C'est superbe, ce film. Bon, ça fait rêver. Bon. Si on veut arriver à un monde comme ça, ce n'est pas impossible qu'on y arrive. Hein. Mais je pense qu'il faudra passer par des moments de plus en plus difficiles. Voilà. Tu vois?
Oui.
Et je pense que l'humanité, pour son évolution, a besoin de ça. Voilà. Alors, après, à l'échelle de l'humanité, il y a une chose dont on est sûr maintenant, c'est certain, on le sent, c'est que la Terre qui est un être vivant, hein, la Terre qui est un être vivant, est en train de monter en vibration. Et bon, quatrième, cinquième, elle est à ce niveau-là, quoi. Et du coup, elle va pas supporter sur son dos une humanité qui serait restée à la troisième dimension. Hein.
Oui, ça freine son ascension.
Oui, c'est pas possible. Ça veut dire que tous ceux qui s'accrochent à la 3D et à la troisième dimension, on peut imaginer qu'ils vont peut-être aller ailleurs, pour continuer de vivre leur expérience de troisième dimension. Ça n'est pas mal. Il n'y a pas de mal. Et personne ne sera perdu. Personne ne sera perdu. Resteront sur le dos de cette terre bienveillante, et bien ceux qui auront pu accéder à cette élévation. Et il restera peut-être beaucoup moins de monde. Et pour arriver à cette transition, peut-être on devra traverser des périodes où il y aura des choses un peu terribles qui peuvent se passer.
Oui.
Et tu vois, à ce moment-là, à ce niveau-là, quand on arrive à dire ça, moi je me dis, bon, ok, ça sera difficile, mais bon, puisqu'on doit y passer, si, parce que, puisque c'est le prix de notre évolution, allons-y.
Oui.
À ce moment-là, il peut se passer ci ou ça, n'importe quoi, n'importe où, bon, c'est ok, tu vois. Si tu veux, je suis dans l'acceptation de ce qui peut se passer. Du coup, il suffit de prendre un peu de recul parce que, ok, ce que tu disais, les Américains, les Russes, les Chinois, c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand on les entend parler. Mais quand ils parlent, ces gens-là, ça veut dire quoi de la réalité? On en est loin de la réalité.
Oui.
Ils disent des choses, comme notre président, il dit beaucoup de choses, mais
Oui.
il ne fera rien de ce qu'il dit. Il dit des choses, il a toujours dit beaucoup de choses, mais il ne le fait pas. Donc, ça n'a pas de valeur.
Non.
Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est ça. Alors après, parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est notre niveau spirituel, notre niveau de conscience. Et c'est ça qui compte. Le reste, c'est... Le reste, c'est secondaire, quoi. Ça vient après.
C'est du vent, mais
Donc c'est comme ça que je le vois. Après, bon, mais c'est vrai, je suis l'actualité, hein, je la suis très bien. J'essaye de comprendre, mais là, il faut la voir au deuxième, troisième degré, quoi. Tu ne peux pas voir ça au premier degré, parce que sinon, si tu regardes la télévision, hein, On est complètement abasourdi, quoi.
Oui, bon, moi j'en ai plus depuis plus de 8 ans, donc j'ai pas trop ce souci-là, mais
Oui.
comment dire, bon, c'est vrai que quand on voit ça, ça me fait penser un petit peu, enfin, sans rentrer trop dans la vulgarité, mais ça fait un peu de style de mec pour savoir celui qui a la plus grande, quoi. C'est un peu
Ouais.
ça, en fait, c'est un jeu de. C'est des gamineries pour moi, donc du coup,
Oui, c'est un jeu d'ego
Voilà,
continuel.
c'est ça, c'est purement de l'ego, tout à fait. Mais moi, ce que j'observe plus, c'est au niveau de la Terre. Et honnêtement, avec ce qui s'est passé au Mexique, les tremblements de terre, avec les. Comment dire les suites, hein, les répliques, on a cherché le mot, qui ont été quand même assez importantes. Le volcan Popocatépetl, ou je sais plus comment le nom, qui a dormir dehors, qui s'est réveillé. Et là, l'autre actualité, c'est le volcan à Bali qui menace de plus en plus, en fait. J'ai observé que la ceinture de feu, elle devient de plus en plus active. Et
Oui.
j'ai observé des gens qui disent que les plaques tectoniques sont en train de se changer, c'est-à-dire qu'on risque de connaître un peu comme les dinosaures une nouvelle forme de la Terre.
Oui,
Donc
mais bien sûr, oui, il va y avoir des choses comme ça,
voilà,
oui.
ça pourrait. Alors certains disent que c'est le fameux monde de demain, celui que tu avais parlé dans d'autres émissions, qui est en train de se mettre en place.
Il y a quelque chose, tu sais, la Terre n'a besoin de personne pour savoir ce qu'elle a à faire.
Oui.
Le fameux réchauffement climatique, c'est un leurre, bien sûr.
Tout à fait.
Les hommes ne sont en rien responsables de ce qui se passe. La Terre, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Mais maintenant, peut-être qu'elle en a un peu marre et puis qu'elle a décidé de se secouer un petit peu. Hein. C'est comme un chien qui secoue ses puces, hein, puis les puces ont tombé, quoi. Hein, voilà.
Oui, ça fait penser un peu au déluge de la Bible dans la Genèse. Enfin, non, c'est pas la Genèse, mais enfin,
Oui.
ça fait penser un peu à ça, hein, ou à l'Atlantide aussi, que l'Atlantide a
Alors,
disparu.
oui, ça peut, oui, ça y ressemble un petit peu, parce que c'est vrai que là, l'ego est trop fort. L'ego est trop fort et la Terre ne le supporte pas. L'ego des Américains, des Russes, des Chinois, etc., etc., de Macron, tout ça. Donc, cet ego est trop, trop fort, la Terre ne le supporte pas. Tu vois, voilà. Et donc, elle va mettre de l'ordre. Mais en mettant de l'ordre, il se passera ce qui se passera, quoi.
Oui,
Voilà.
ça moi, un petit peu, je suis pareil, je suis dans l'acceptation. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y changer? On ne peut pas changer grand-chose. Hein. La Terre fait ce qu'elle a à faire et elle fait ce qu'elle veut, hein, comme nous, on fait ce qu'on veut aussi. Donc, on n'a pas trop d'ordre à lui donner. Par contre, c'est sûr qu'il fallait bien se douter un jour qu'à force de, comment dire, de parasiter, de prendre, de prendre, de prendre, sans rien donner en échange, bah, au bout d'un moment, ça peut plus durer, quoi. Au bout d'un moment, c'est.
Mais tu sais, bien sûr, ça c'est certain, c'est sûr. Qu'est-ce qui est important? C'est de se rappeler l'histoire du colibri. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce que nous faisons personnellement, chacun d'entre nous, sans s'occuper de ce que font les autres. Et ça, c'est important. Par exemple, il y a un papier que tu vois par terre, tu peux le ramasser sur le trottoir. Si par exemple un plastique se promène et vole, tu peux l'attraper, le mettre dans une poubelle. Voilà. À notre niveau, chacun à son niveau, s'il fait ce qu'il faut pour préserver la Terre, pour la remercier, voilà, pour avoir le plus de gratitude envers ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle continue de nous apporter, si on fait ça, chacun d'entre nous, c'est suffisant. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de savoir ce que l'État va faire sur un plan écologique, machin. Alors, OK, on peut s'y intéresser, on peut voir un peu ce qui se passe. Mais le plus important, c'est que ce que chacun fait, personnellement, quotidiennement, chez lui, dans son village, dans sa maison, voilà. Et ça, c'est important. Tu vois? Alors, bien sûr, ça a l'air de. Tu connais l'histoire du colibri, hein? Il y a un incendie dans la forêt et lui. Il va prendre de l'eau avec son tout petit bec, il va mettre sa petite goutte d'eau dans l'incendie, et puis alors le hibou qui est là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le colibri dit, mais moi je fais ma part.
Oui.
Et ça, c'est magnifique. C'est ce qui a donné le nom au mouvement de Pierre Rabhi.
Pierre Rabhi, oui.
Et c'est ça que j'aime, et c'est ça qui est important. Ça, c'est ce qui est le plus important. Tu vois, voilà. Et respecter la terre, respecter les autres, avoir une vie comme ça chez soi, et ça, c'est ça qui va changer le monde. Plus que ce que peut faire Macron ou Trump, ou le chinois ou le russe.
Oui.
C'est ça qui va changer le monde, ce que nous faisons nous chacun de notre côté au quotidien, voilà, tranquillement, sans même en parler aux voisins, sans même en parler aux autres. Je fais ça et je le fais. Tu vois? Alors moi, je suis pas plus fort qu'un autre, mais c'est vrai que naturellement, je suis dans cette vie-là aussi. Je raconte souvent un truc qui est, tu sais, cette histoire, bah, très courte, hein.
Oui.
Ça m'est arrivé une fois, mais après ça m'est arrivé très souvent. Mais une fois, je me rappelle bien parce que c'était un peu plus. Je circulais en vélo, et du vélo j'en fais assez souvent. Et sur une route où j'allais assez vite, là, dans une courbe légère à droite, il y avait plein de morceaux de verre sur la route. Eh bien, tu vois ce que j'ai fait? Naturellement, j'ai freiné, je me suis arrêté, je suis revenu en arrière, j'ai posé le pied par terre, j'ai mis mon vélo dans le fossé, et tranquillement, sans me poser de questions, longuement, parce qu'avec des chaussures de vélo, c'est pas facile pour nettoyer les verres,
oui.
J'ai enlevé jusqu'au dernier morceau de verre de la route, puis quand ça a été propre, je suis reparti. Tout simplement. J'ai pas eu une seule pensée envers celui qui avait jeté la bouteille, ça m'est égal. La seule chose qui comptait, c'est que moi, j'ai vu ça, donc je me suis senti responsable de ça. Quand je vois des choses immondes qui se passent dans le monde, sur le plan écologique, tout ça, je me sens responsable de ça. Et tu sais ce que je fais? Eh bien, je demande pardon. Et ça, je trouve que c'est le plus utile qu'on puisse faire, le plus efficace qu'on puisse faire. Parce qu'à notre niveau, qu'est-ce qu'on va faire avec nos petits bras, hein?
Oui.
Ben, on n'a rien à faire avec nos petits bras. Par contre, on peut faire avec le cœur. Et là, ce qu'on peut faire là, ça sera le plus efficace possible. Ça, c'est la meilleure leçon qu'on peut donner aux gens. C'est de dire ça, de répéter ça souvent. Parce que c'est ça qui est à faire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de politique. Moi, je suis passionné par la politique aussi. Mais je la regarde d'un œil amusé, tu vois.
Oui.
Un peu chagriné quand même des fois, de voir quand même que les gens sont quand même pris dans leur ego là, c'est fou quoi. Mais quand même, un œil amusé quand même, tu vois. Voilà Cédric, après j'avais envie de te dire autre chose.
Oui, alors justement, on a parlé hors antenne avant de commencer l'émission, c'était par rapport un peu à ce que j'ai vu aussi, hein. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sort sur le Ho'oponopono et il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et justement, tu voulais en parler un petit peu par rapport à un texte que tu as écrit pour remettre un petit peu les choses à plat par rapport à ça.
Oui, oui, mais j'ai écrit un texte qui s'appelle « Rendons aux Hawaïens ce qui appartient aux Hawaïens ». Et c'est vrai que ça, y a des choses qu'on voit, que j'ai vues, qui au bout d'un moment sont un peu, qui dépassent un petit peu les normes, quoi. Alors, c'est sûr que, tu vois, au Ho'oponopono, Maria-Lisa et moi, nous avons été les premiers à en parler en France. Mmh. Pas tout à fait. Le docteur Len avait fait un atelier ou deux, mais lui, il l'a fait en américain.
Oui. Mmh.
On a été les premiers à faire des stages en français, des conférences d'abord, etc. On a été les premiers à écrire un livre en français. Et donc, c'est pas que Ho'oponopono nous appartient, il nous appartient pas.
Oui.
Mais on a eu comme une part de responsabilité dans ce qui se passe maintenant, parce que voilà, hein, c'est à partir de nos premiers livres et de nos premières conférences et stages que les choses se sont faites, et puis maintenant, alors, plein de gens en parlent. Et c'est très bien ainsi, parce que c'est un message tellement magnifique que je suis ravi qu'on en parle. Et c'est très bien. Alors, la plupart des gens en parlent bien. Voilà. Alors, quand je dis bien, je suis dans le jugement. Ça veut dire qu'ils en parlent à peu près comme on en parle. Et nous, on a tenté de rester assez proche de l'enseignement de Mourna Simeona et du docteur Len. Voilà. Mais surtout, on a été proche de notre propre ressenti. Et c'est vrai que Ho'oponopono, quand on l'a découvert, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté les vidéos de Mourna Simeona qui a créé le Ho'oponopono, celui que nous connaissons, et le docteur Len. On a beaucoup, beaucoup, parce que personne n'était là pour nous l'enseigner. Et on a commencé à pratiquer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui fait que, peu à peu, au fil du temps, si tu veux, ça, c'est, dans notre esprit, dans notre cœur, ça a beaucoup évolué. Et Ho'oponopono que nous enseignons, bah, il s'est un petit peu éloigné. Mais bon, on est de plus en plus dans le pardon. Et il s'est éloigné pourquoi? Pour une raison, c'est que nous nous sommes beaucoup, beaucoup, nous avons pas mal étudié le cours en miracle. Et on a fait le lien entre Ho'oponopono et un cours en miracle. C'est vraiment pareil, quoi. Sauf que le cours en miracle est beaucoup plus détaillé, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des vidéos. Alors, il y a des livres qui sont sortis maintenant, des livres. Il y a beaucoup de livres et des vidéos. Alors, absolument, qui m'ont un petit peu, je dirais, un peu gêné, quoi. Hein. Et ce qui m'est venu, c'est que les Hawaïens, je me suis aperçu que beaucoup d'Hawaïens qui pratiquent Ho'oponopono de façon ancestrale, s'étaient sentis vraiment agressés presque. Mais ils sont très en colère de la façon dont Ho'oponopono est raconté un peu partout. Et ils sont très en colère, si je devais me manifester. Ils seraient aussi en colère de la façon dont nous pratiquons Ho'oponopono, parce que ça ne, c'est pas du tout pareil, c'est assez différent de ce qu'ils pratiquent de façon traditionnelle. Bon. Mais nous, on est restés fidèles au pardon et à la paix. Voilà. Nous, la motivation de Ho'oponopono, c'est d'être dans le pardon, dans la paix, et de découvrir l'être spirituel que nous sommes. C'est répondre à cette question, qui suis-je? C'est à ça à quoi sert Ho'oponopono. Rien d'autre. C'est ça. Hein. La finalité, c'est vivre ce pardon, voilà, et d'être en paix en demandant à la divinité de nettoyer nos erreurs, nos mémoires. Et c'est ça, Ho'oponopono. C'est rien d'autre. Bon. Alors maintenant, on y voit on voit des enseignements, alors des enseignements dits spirituels, dont on dit que Ho'oponopono, c'est un outil, une méthode, une technique, et on s'en sert pour avoir plus d'abondance, pour améliorer sa situation financière, pour réaliser ses rêves, pour obtenir tout ce qu'on désire, créer sa vie en quelques jours, etc.
Oui,
Pour être
c'est
maître de sa vie, enfin.
mélangé avec
Et
la loi d'attraction.
alors, ça, c'est la loi. Oui, on arrive même à parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est un courant qui est né du
Tout à fait.
New Age, et qui reste du domaine du mental. Hein. Tu sais, la
Oui.
pensée positive, tout ça, c'est du New Age.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que c'est un leurre.
Une
Quand
illusion.
on rentre là-dedans, on est leurré. C'est-à-dire on va dans un mur. On n'aboutit nulle part. On n'aboutit pas vers quelque chose qui va nous épanouir. Non, non. On aboutit vers quelque chose qui va nous décevoir. Alors ça, si quelqu'un m'entend et veut me répondre, on en parlera. Parce que alors ça, alors là, je peux en parler.
Ben ça,
Donc
moi,
voilà, donc on fait le mélange, alors qu'Ho'oponopono nous invite au contraire à lâcher le mental et l'ego afin de s'élever en conscience et se connecter à la divinité. Alors dans des vidéos, j'ai vu une vidéo absolument effarante. Il dit, l'enseignant, et attention, cet enseignant, hein, il a l'air d'être. Il dit 90% des livres écrits sur Ho'oponopono ne donnent pas le mantra dans l'ordre dans lequel il le dit lui, parce que c'est un ordre. Il y a un ordre spécial. Il faut savoir qu'à Hawaï, ils n'ont jamais utilisé aucun mantra. Morna Simeona, qui a créé Ho'oponopono en 1976, celui que nous connaissons avec ses règles, et puis voilà. Elle était absolument contre l'utilisation de tout mantra. Donc l'utilisation du mantra est née progressivement avec le docteur Len, mais surtout avec Jo Vital,
Oui,
qui
c'est
l'a
ça.
reconnaître. Jo Vital, c'est un milliardaire, c'est le roi du marketing. Lui, voilà, lui, c'est un businessman. Hein.
Businessman,
Donc, le New Age, il s'est emparé de ça pour en faire quelque chose qui ressemble un peu New Age, tu vois. Donc, le mantra, ce qui ne veut pas dire que le mantra est à rejeter. Non, non, nous, on l'a bien utilisé, on continue de le faire, mais de moins en moins. De moins en moins.
Oui, c'est devenu un automatisme maintenant.
Alors, c'est quelque chose qui est assez. Quand on débute dans cette pratique, c'est bien utile le mantra. C'est bien utile le mantra. Mais peu à peu, on s'aperçoit que c'est de moins en plus moins nécessaire. Et je l'utilise pratiquement plus. Sauf de temps en temps, parce que c'est devenu un commun automatisme. Hein. La vidéo dont je parle, elle a été vue 350 000 vues. Elle a été vue 350 000 fois. Et ça, c'est surprenant quand même, que des gens sont attirés par ce genre de choses. Il y a même un livre que j'ai vu qui s'appelle « Le nouveau Ho'oponopono ». Alors là, il faut le faire. Hein. Le nouveau Ho'oponopono, c'est-à-dire que l'ancien n'était pas assez bon, donc quelqu'un a écrit un livre qui s'appelle « Le nouveau Ho'oponopono ». Voilà, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu... voilà. Mais bon, il n'y a pas de jugement à porter. Hein. Chacun agit selon sa conscience, et puis... en fait, bon, voilà, chacun fait comme il le peut, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, mettons-nous à la place d'un Hawaïen qui voit ça. Eh bien, il n'est pas content, et on peut le comprendre, tu vois.
Oui, ben c'est normal.
Donc, voilà, donc, on m'a demandé souvent si j'étais allé à Hawaï avec Maria-Lisa, on n'est jamais allé à Hawaï. Si on devait le faire, on le ferait le plus discrètement possible, on ne se ferait pas connaître, et surtout, surtout, on passerait notre temps à demander pardon. Je crois que c'est le plus utile, quoi, qu'on puisse faire. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est de demander pardon à ces gens qui nous ont transmis une philosophie absolument merveilleuse. On s'en est servi sans leur demander la permission. Mais voilà, donc c'est ce que nous ferions. Et c'est ce qu'on fait régulièrement aux Hawaïens. Souvent, on a y pensé vers Hawaï, vers tous ces gens qui nous ont transmis cette philosophie qui envahit le monde maintenant. Enfin, envahit le monde, c'est un grand mot. Mais donc, elle fait son chemin un peu partout. Nos livres sont traduits dans plein de langues, donc c'est très bien. On en est content, mais c'est vrai qu'il faut avoir une pensée pour les Hawaïens, voilà. Donc, du plus profond du cœur, eh bien, nous leur demandons pardon.
D'accord, ok. Oui, c'est vrai que, par rapport à ce que tu nous dis, c'est vrai que le New Age, ou alors, comme certains l'appellent, même des fois je le dis comme ça, le New Age, c'est un peu le nouille, hein, comme la nouille en fait. C'est un peu, pour moi, une fosse à purin dans laquelle on met tout et n'importe quoi.
Bien sûr, mais tu sais que ça a été créé volontairement,
tout à fait,
comme
oui.
Leurre pour amener les gens vers une impasse.
C'est ça, par Elena Blavatsky. Qui a été repris par Alison Bell. Et oui, effectivement, c'est une mouvance qui a été créée justement pour engluer les gens qui sortaient en fait du système. Et voilà, ils restent bloqués dans ça et ça les bloque. Et d'ailleurs, la loi d'attraction, pour rebondir, moi, à l'époque, en ayant essayé, à chaque fois, effectivement, il y avait des choses qui arrivaient. Mais après, il y avait le contre-coup. Et
exactement.
À chaque fois, c'était bah, à un moment, j'ai dit bon, stop, je dis c'est pas normal. Et puis, bah, moi, j'ai fait dans l'autre sens. Alors, moi, après, c'est par rapport à d'autres trucs, par rapport à ma foi maintenant. Et bah, les choses, bah, quand ça doit être le moment, paf, hop, j'ai une rentrée d'argent qui vient là pour m'aider. Ou, ah, tiens, bah, quelqu'un me donne ça pour pouvoir manger. Enfin, voilà. Ou, sans que je le demande, ça vient. Donc, du coup, j'accueille. Et honnêtement, là, je n'ai plus le contre-coup. Que souvent, beaucoup de gens me disent avec la loi d'attraction, je comprends pas. J'ai le truc que je demande. Bon, bien sûr, faut que ce soit réalisable. Hein. Faut pas demander non plus de devenir Schwarzenegger ou j'en sais rien quoi. Et dit après, j'ai le contre-coup. Ben, j'irai, n'attends rien. Tu fais ce que tu fais. Tu peux, oui, demander à la rigueur comme ça, mais sans forcément demander. Mais tu ne l'attends pas. Tu lâches prise, tu n'attends rien.
Bien
et là,
sûr.
Les gens, ils m'ont dit ah, ton truc, ça marche super bien et tout. Je dis, c'est pas un truc. Je dis, c'est une philosophie de vie. Enfin, voilà, je dis. C'est pas un truc, hein, c'est d'ailleurs Dan Millman, pour en revenir au guerrier pacifique, c'est vrai que j'en viens souvent,
oui.
Que Dan, il avait dit à Socrate, enfin celui qu'il a surnommé Socrate, hein, c'est pas son
oui.
Vrai prénom, qu'il lui avait dit « votre truc, il marche bien », il a dit déjà « un, c'est pas un truc », pour l'instant
oui.
Présent, voilà. Parce que c'est vrai que l'instant présent est un pouvoir immense.
Ah ben, c'est bien sûr.
Voilà, moi j'aime pas utiliser le terme « pouvoir » parce que c'est pas un pouvoir pour contrôler, mais c'est quelque chose qui, qu'on est vraiment, qu'on vit l'instant présent de A à Z,
oui.
C'est quelque chose qui nous transcende de toutes parts. Hein, et on se dit, wow, comment j'ai fait ça ?
Bien sûr.
Voilà.
C'est, en fait, vivre ça, c'est activer la divinité qui est en soi.
C'est ça, la laisser s'exprimer à travers nous.
Exactement. Exactement. Eh oui, c'est ça. Eh oui.
Voilà. Donc, on arrive donc à la fin de l'émission. On l'a dépassé de 5 minutes, mais ce n'est pas très grave. Est-ce que tu as donc un mot pour conclure cette émission du mois de septembre ?
Eh bien, écoute, je vais donner le titre de ce que j'aurais aimé parler un peu ce soir, mais c'est vrai qu'une heure, c'est pas long. On en parlera la prochaine fois, si
oui,
tu veux.
Oui, pas de souci, pas de souci.
C'est répondre à cette question, comment savoir quand l'âme me parle ou quand c'est l'ego qui me parle? Alors ça, c'est une grande question qu'on me pose très souvent. D'ailleurs, j'ai eu une question par écrit il y a 2-3 jours, faut que j'y réponde. Donc ça, c'est une grande question. Et voilà, j'ai une réponse assez longue à donner, donc on en parlera la prochaine fois. Mmh, et ça, c'est important. Comment savoir si c'est l'âme qui me parle? Parce que l'âme nous parle tout le temps. Tout le temps. Voilà.
Et bien justement,
il faut être à l'écoute, voilà, c'est tout.
Ben justement, ce sera le prochain thème de l'émission du mois d'octobre.
Exactement.
Que je rappelle, et se situe donc le dernier vendredi de chaque mois. Voilà, ben en tout cas, merci Jean pour cette émission très sympathique. Et j'espère qu'il aura plu aussi à toutes les personnes qui nous auront écoutés. Sachez que vous pouvez poser vos questions sur le site de radioterrazen.net en cliquant sur le bouton « Poser une question ». Ou sinon, vous pouvez, à la rigueur, envoyer par l'adresse mail à Jean et qui pourra aussi répondre lors de l'émission, hein, si toutefois tu veux le faire par le biais de l'émission.
Oui, oui, bien sûr. De toute façon, moi, je suis toujours à l'écoute, je réponds toujours.
Voilà, d'accord. Bon, bah, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis donc au mois prochain.
Entendu, merci Cédric. À dans un mois.
À dans un mois, c'est ça. Voilà. Allez, je vous dis une très bonne soirée à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous donne rendez-vous donc pour le mois prochain pour une autre émission de Spiritualité en question.